C'était il y a 3 ans, je suis sourceur. Et dans ce contexte-là, j'ai une société, petite start-up, qui vient de sortir du Covid en tirant son épingle du jeu et qui souhaite passer au niveau supérieur. Elle me contacte notamment pour trouver quelqu'un qui aura pour mission de la développer commercialement. C'est le premier commercial qui est recruté au sein de la boîte. Le CEO, lui, n'y connaît rien. C'est un ingénieur. Il a tout pour le produit. Et donc, je suis mandaté par celle-ci pour trouver non seulement un commercial, mais à moyen terme, son futur responsable commercial. Et chose qui n'est pas commune, je vais aussi en faire l'évaluation. D'habitude, je me contente seulement du sourcing, c'est-à-dire de trouver des candidatures et de les qualifier pour les entreprises. Cette fois-ci, parce que je connais très bien le CIO, j'accepte de faire l'évaluation du commercial. Donc là, j'arrive à trouver 10 candidats qui sont plutôt de qualité, notamment parce que l'offre est vraiment très attrayante. La rémunération est attractive. En plus, c'est un emploi qui est à 100% en télétravail. Et par ailleurs, il y a une carte blanche qui est donnée sur le poste pour le construire et aussi pour bâtir sa future équipe en tant que responsable commercial. Et parmi ces candidatures, il y en a une qui attire mon œil et mon attention, c'est celle d'un ancien ingénieur qui s'est reconverti dans le développement commercial. Il a fait une école d'ingé, il a travaillé dans le produit et en plus, dans le secteur qui nous intéresse, le logiciel B2B. Et dans ce contexte-là, il a développé une appétence et une compétence dans le développement commercial et c'est exactement ce qu'on recherche. Je le contacte, il est enthousiaste à l'idée de rejoindre l'entreprise et je lui fais passer un entretien en visio. Nous sommes encore en période de Covid. Au cours de cet entretien, tout se passe bien. Il répond bien. Je ne dis pas qu'il répond juste, il répond bien. C'est-à-dire que même sur les questions sur lesquelles il trébuche, il retombe sur ses pattes. Même là où je pouvais avoir des doutes, il arrive à s'en sortir. Si bien qu'il a une telle confiance en lui qu'elle rejaillit sur moi. J'ai envie de lui faire confiance. Séduit par son profil, je le propose du coup au CEO. Il le reçoit et il partage mon enthousiasme. Au bout d'une semaine, il le recrute. Et là, les premiers mois passant, il ne fait aucune vente. Normal. Il faut connaître le produit. Il faut connaître le secteur. Et il part de zéro. Il faut lui laisser le temps. 6 mois, zéro vente encore. C'est un poste compliqué. Et c'est un poste stratégique. Il y a énormément d'informations à prendre en compte. 9 mois, zéro vente encore. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé de personne ? 12 mois, zéro vente. Le CEO m'appelle et me demande mon avis. Ça fait 12 mois qu'il est parmi nous, il n'a fait zéro vente. Est-ce que tu penses que je dois le garder ? Ma réponse, non.
En recrutement, il est courant de chercher à minimiser les erreurs de casting en privilégiant les candidats les plus sûrs d'eux et qui savent le mieux se vendre. Pourtant, confiance ne rime pas forcément avec compétence, loin de là. En effet, moins une personne possède de compétences, moins elle est à même d'identifier qu'elle est ignorante. Car oui, si l'on ne connaît rien d'un sujet, comment savoir qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre ? Ainsi, un candidat très assuré peut, tout simplement, être un ignorant qui s'ignore. Dans cet épisode de notre série de podcast Histoire de recruteurs, proposé par WeSuggest, plateforme d'évaluation des soft skills en recrutement, nous allons braquer les projecteurs sur ce biais qui touche certains candidats afin de mieux le comprendre et d'identifier les solutions et garde-fous à mettre en œuvre pour en atténuer l'impact et réagir au mieux. Je suis Marie-Sophie Zambeau, éditorialiste RH, et pour aborder cette thématique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, derrière notre micro, Mohamed Achabar, expert RH et management au sein de l'École du recrutement. C'est parti. Un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Ayant moi-même eu la chance de suivre l'e-learning de l'École du recrutement et d'être certifiée, je suis ravie d'avoir aujourd'hui, dans cet épisode, un membre éminent de l'École du recrutement pour nous apporter son éclairage sur les biais cognitifs. Néanmoins, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter à nous, s'il te plaît, Mohamed ?
Bien sûr. Alors, je m'appelle Mohamed, comme tu viens de le dire. Il y a 10 ans, je voulais être DRH en 20 ans. Le chemin a bien changé entre-temps. Mais j'ai évolué dans le secteur du recrutement maintenant depuis bien 7 ans, où j'ai tout fait quasiment en tant que recruteur, en tant que formateur, aussi en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, je travaille à l'École du recrutement et mon rôle à l'École du recrutement est de faire passer des bons moments à la communauté des recruteurs et des recruteuses. Je suis aussi en charge du développement économique et commercial par le marketing à l'École du recrutement. Je prendrai ma retraite le jour où on mettra en place un permis de router en France, notamment parce que le routement implique de telles conséquences sur les gens, sur les entreprises, que je pense qu'il est nécessaire de ne pas le mettre entre les mains de tout le monde.
Passons, si tu le veux bien, à l'effet Dunning Kruger en lui-même. Comment le définis-tu et comment se manifeste-t-il en recrutement ?
Alors, la définition la plus simple, c'est simplement l'ignorance de l'ignorance engendre la confiance. C'est-à-dire que c'est parce qu'on ignore les choses qu'on a la confiance de les faire. Vous savez, c'est toutes les phrases qui commencent par « si j'avais su, je ne l'aurais pas fait ». Et il se manifeste dans le recrutement aussi bien chez les candidats et candidates que chez les recruteurs et les recruteuses. Notamment auprès des candidats quand il s'agit de surestimer leurs compétences en langue, par exemple l'anglais. Mettre anglais courant, voire bilingue, alors qu'on balbutie seulement des phrases, sujet, verbe, complément. Ou bien chez les recruteurs quand il s'agit tout simplement de se fier à son feeling, à son intuition, au lieu de se fier à ses compétences d'évaluation.
C'est intéressant de préciser que pour cet effet Dunning-Kruger ou effet de surconfiance, en fait, c'est pas le candidat qui essaie de bluffer et de surjouer la confiance pour faire croire en face au recruteur qu'il maîtrise, c'est qu'en fait, il est intimement persuadé qu'il est compétent sur le sujet. C'est ça vraiment ce biais-là et la différence.
Oui, il n'y a pas de processus conscient. Un biais, c'est un processus lent qui est issu de l'évolution, qui est là pour nous permettre de survivre. Et pourquoi il est inconscient ? C'est parce que jusqu'à présent, si on avait la connaissance pleine et entière des choses qu'on comptait faire, ben en fait, on ne les ferait pas. C'est ce qu'on peut appeler la métacognition. C'est ne pas être conscient qu'on ne sait pas.
Donc, l'anecdote que tu nous as racontée, le commercial n'était pas juste dans une posture de « je suis commercial, donc je dois dégager confiance, charisme ». Il était profondément persuadé que c'était l'homme de la situation, qu'il était compétent et qu'il serait en mesure d'accompagner au mieux l'entreprise, d'atteindre le chiffre d'affaires et de booster les choses.
Il était intimement convaincu, effectivement, qu'il pouvait nous aider. Au-delà de ça, il ne considérait pas le métier de commercial comme un métier. Je rappelle, nous, quand on l'a recruté, il avait un parcours dans une école d'ingénieurs, il a été ingénieur, et puis, par les nécessités de ses expériences, il a dû se spécialiser dans le développement commercial dans son ancienne entreprise. Et il a pensé, à juste titre ou pas, qu'il pouvait développer les stratégies qu'il avait mises en place dans son précédente entreprise, dans la mission qu'on voulait lui proposer.
Si on revient sur l'anecdote, tu ne t'es pas rendu compte sur le moment de cet effet de surconfiance présent chez le candidat, et c'est justement le propre de ce biais cognitif. Si tu devais revivre cette expérience, qu'est-ce que tu changerais ? Et est-ce que tu penses justement qu'il y a des signaux faibles éventuellement pour détecter en temps réel, quasiment en direct, ce biais cognitif ?
Oui, il faut savoir qu'à cette période, je n'étais pas encore formé à des méthodes objectives d'évaluation. Notamment, je pense à la méthode des entretiens structurés. Et moi-même, j'étais très lié au feeling et à l'instinct sur cet entretien. Et donc oui, il existe des méthodes qui s'appellent tout simplement l'entretien structuré, parce que le moyen de faire réaliser à quelqu'un qu'il est sous l'effet de Dunning-Kruger, c'est tout simplement de le mettre face à son ignorance. C'est-à-dire que s'il donne une mauvaise réponse, alors que nous, on est en mesure de lui donner la bonne, là, ils se rendent compte du décalage et du coup de l'écart entre la compétence qu'il projette, la connaissance qu'il projette et celle qui est réelle.
Le feedback est donc un élément majeur pour permettre de provoquer une prise de conscience chez le candidat atteint de ce biais cognitif.
Oui, c'est le feedback sur les questions d'évaluation.
Tu as évoqué le terme d'entretien structuré. Est-ce que tu peux développer sur ce sujet, nous donner une définition de ce que c'est ?
L'entretien structuré, il y a plusieurs manières de le voir, mais il faut comprendre qu'il s'agit de poser des questions strictement liées au poste, qu'il soit identique à tout le monde et qu'il soit basé sur la méthode des incidents critiques. Alors, les incidents critiques, c'est quoi ? Ce sont des anecdotes qui reposent sur le poste en lui-même, qui fait qu'on peut réussir sur le poste et échouer sur le poste. Par exemple, qu'est-ce qui ferait qu'un commercial peut réussir dans la start-up en question et donc dans le secteur du logiciel B2B ? Et là, il y a une liste d'anecdotes qui peuvent venir ou une liste de situations qui peuvent venir et c'est à travers elles qu'on va évaluer.
Sur l'entretien structuré, effectivement, c'est important d'avoir des critères précis identifiés en amont, de poser les mêmes questions. C'est aussi intéressant de prendre le temps de réfléchir en amont à la calibration de l'échelle d'évaluation.
Oui.
Tu peux nous en dire plus ?
Oui, effectivement, beaucoup d'entre nous, on s'arrête seulement aux questions de niveau 0, niveau 1, c'est-à-dire bonne réponse, mauvaise réponse. La réalité, c'est que nous sommes dans des situations où il y a des réponses expertes et des réponses débutantes aux mêmes situations. Si je demande à quelqu'un comment il compte vendre un stylo, en fait, il y aura plusieurs approches. Il y a l'approche débutante et l'approche experte. Et dans cette approche-là, il est du devoir du recruteur, notamment avec les managers, de déterminer quel est le niveau expert, quel est le niveau intermédiaire, on va dire, et le niveau débutant. Et en général, nous faisons une échelle qui va de 0 à 5.
Ça permet de tendre vers une évaluation la plus objective. La question aussi intéressante, c'est d'identifier si on a des seuils de passage ou non en fonction de certains critères. À savoir si un candidat, il a la meilleure note sur 90% des critères, mais il y en a un, il a zéro. Est-ce que là, il va quand même sortir en tête ou est-ce que c'est éliminatoire? Donc pour moi, il y a aussi la question éventuellement des seuils de passage, de se poser ça comme question avec le hiring manager.
Pour cette question-là, ça dépend des critères parce qu'effectivement, sur un poste donné, il y a énormément de critères qui entrent en jeu. Le fait de les qualifier avec le manager en disant ce qu'on peut appeler des critères prioritaires, ceux sur lesquels ils sont indispensables. Après, il y a ceux qui sont secondaires et effectivement, si sur les critères indispensables, la note minimum attendue n'est pas atteinte, la personne ne sera pas recrutée. Par contre, sur les critères qu'on peut appeler secondaires, on peut envisager de la formation, de l'onboarding pratique et professionnel en situation de travail pour permettre à la personne de performer.
Ce qui est bien, c'est qu'avec cette grille qui est liée à des critères précis, ça te permet de faire un feedback aussi qui est tout aussi précis et constructif au candidat pour lui faire ce feedback, qu'il prenne éventuellement conscience de ses manques ou de ses axes d'amélioration et lutter ainsi contre ce biais de surconfiance.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce que nous demandent les candidats et les candidates. C'est l'élément le plus enthousiasmant d'utiliser les entretiens structurés, c'est qu'il y a une étude qui date un petit peu de l'entreprise Google. Je ne suis pas totalement sûr des chiffres. Ce dont je peux être sûr, c'est que globalement, la plupart des candidats étaient davantage satisfaits après un entretien structuré qu'un entretien qui ne l'était pas. Pourquoi ? Parce que, un, ils savaient sur quoi ils étaient évalués. 2, les questions étaient identiques pour tout le monde, du coup, il n'y avait pas de favoritisme. Et enfin, il y avait les réponses et du coup le débrief qui était fait par le recruteur. Et ainsi, on pouvait voir là où on n'avait pas bien, entre guillemets, répondu et donc là où on pouvait s'améliorer.
C'est super intéressant que tu dises ça parce que en France, en tout cas, il y a la vision que l'entretien structuré, ça peut être un peu mécanique, automatisé et que donc ça va avoir un impact négatif sur l'expérience candidat, qu'ils vont pas apprécier, que ça va manquer d'humanité. Or, les études, j'avais également celle-ci en tête, pour moi c'était 30%, les études montrent que les candidats préfèrent en fait ce type d'entretien parce qu'ils comprennent les questions qu'on leur pose, ils comprennent davantage l'issue et l'évaluation. Et en fait, ils ne recherchent pas quelque chose de forcément fun, ludique ou bienveillant, les candidats. Ils recherchent avant tout le sentiment de justice et d'équité.
Effectivement. Le premier critère qu'ils recherchent, ce n'est pas de la bienveillance, ce n'est pas d'avoir un verre d'eau au milieu de l'entretien. Non, ce qu'ils cherchent, c'est juste de l'équité et de la justice. Et pour revenir sur les entretiens sans âme dont tu parlais, la réalité, c'est que comme la plupart des recruteurs et des recruteuses ne maîtrisent pas l'entretien structuré, il est effectivement très laborieux au début. Conduire au début, c'est difficile parce qu'il faut faire attention où on met les pieds ou comment on passe les vitesses. Mais ensuite, ça devient plus de la réflexion, ça devient un réflexe. Et c'est ça, effectivement, c'est passer la phase d'adaptation, la phase d'apprentissage, ça devient une seconde nature.
Outre l'entretien structuré, est-ce que tu as d'autres techniques ou méthodes pour lutter contre ce biais de surconfiance ou plus généralement pour lutter contre les biais ?
Alors de manière générale, si on veut se prémunir un petit peu des biais, c'est mettre de la réflexion entre soi et l'action. Maintenant, de manière concrète, sur le cas du recrutement et dans le cas du biais de surconfiance, il faut savoir qu'on dispose d'un outil qui est magnifique, bien que sous-estimé, c'est la période d'essai. La période d'essai est là pour justement savoir si une personne convient effectivement pour le poste. En France, elle dure 4 mois. En plus, elle est reconductible. Donc, on a 8 mois pour savoir si une personne convient au poste. Alors, je peux comprendre que ça représente un investissement important. Mais du coup, il y a une gradation. Le niveau inférieur à la période d'essai, c'est demander un échantillon de travail. Un échantillon de travail, par exemple, dans le cas de la start-up que j'ai accompagnée, on aurait pu lui demander au candidat quel est son plan de développement commercial, comment il compte s'y prendre et quelles sont les trames, par exemple, d'entretien commercial qu'il compte mener avec les clients. Ça, c'est la deuxième phase. Après, le troisième niveau, c'est les tests de connaissances. Il suffit de poser des questions de connaissances. Est-ce que tu sais c'est quoi un closing ? Est-ce que tu sais comment mener un closing en cette étape, etc., etc. Et en fonction des réponses à ces questions de connaissances, on est en mesure, nous, en tant que recruteur, de savoir s'il y a plus de la confiance que de la compétence chez le candidat.
Je vais te taquiner parce que je te lis, je te connais un petit peu quand même. Tu n'as pas cité la prise de référence comme méthode et technique pour se prémunir de ce biais. Est-ce un oubli ?
Non, ce n'est pas un oubli. Ce qu'il faut savoir dans la prise de référence, c'est un peu comme demander à son ex ce qu'elle pense de nous. Et donc, on essaie, dans le fait de garder une relation de confiance avec le candidat ou la candidate, de se concentrer sur ce qu'elle, elle a à nous dire. Maintenant, on pourrait faire des prises de référence structurées avec l'accord de la candidate ou du candidat. Et les prises de référence structurées, ça consiste en quoi ? Ça consiste à demander, par exemple, à son ancien employeur, elle nous a dit qu'elle avait fait, par exemple, 1 million de chiffre d'affaires. Pouvez-vous nous décrire très rapidement comment elle s'y est prise et quel est le plan qu'elle a mis en place pour ça ? Donc, poser des questions qui ne soient pas personnelles, mais vraiment liées à son activité professionnelle et sur des cas très précis qu'elle a avancés, notamment en entretien.
Penses-tu que c'est le rôle des recruteurs d'aider les candidats à mieux se connaître eux-mêmes et à identifier leurs propres compétences afin entendre de mieux les évaluer ?
Je ne sais pas si c'est le rôle des recruteurs. Ce que je sais, c'est que le recruteur a un rôle important auprès des candidats, notamment dans l'équilibre mental qu'il peut permettre aux candidats et candidates. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ignore l'histoire qu'il y a derrière chaque candidat, notamment comment il vit la recherche d'emploi. Je ne parle pas des personnes qu'on va approcher qui sont déjà en situation d'emploi. Je parle surtout des personnes qui peuvent postuler à plusieurs offres et qui sont en attente et en recherche et qui du coup se mettent dans une situation où ils placent beaucoup d'espoir dans le recrutement. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une dégradation de leur santé mentale, ne pas qu'il y ait de perte de confiance. Et puis, si à travers nos conseils, à travers les avis qu'on peut donner, on aide la personne à se sentir bien dans ses bottes pour qu'elle puisse poursuivre le parcours avec beaucoup de sérénité, je pense qu'on fait une grande part de notre métier.
Donc, c'est pas dans la fiche de poste, mais entre guillemets, c'est un contrat moral.
Oui, c'est exactement ça. C'est le contrat moral que l'on prend avec le candidat. Chaque fois qu'un recruteur recrute, il passe un contrat implicite avec les candidats et les candidates. À savoir, je vais traiter la candidature avec empathie, avec professionnalisme. Et ce contrat, il n'est écrit nulle part, il est implicite. Et pourquoi ce contrat est important pour le recruteur de le respecter ? Car les candidats n'est pas un métier. Personne n'est un candidat par vocation. Personne n'a pour hobby d'être candidat ni de le rester. Et c'est dans ce cadre-là que nous, en tant que recruteurs, nous sommes là pour les accompagner, pour veiller à ce que leur santé mentale ne se dégrade pas et qu'ils ne perdent pas confiance en eux et notamment en leurs compétences.
Quel conseil donnerais-tu pour établir un feedback le plus clair, accessible et constructif possible aux candidats ?
En fait, déjà par l'écoute active, consisterait essentiellement à poser des questions, à demander à la candidate ou le candidat là où il se sent le plus à l'aise. D'ailleurs, ça nous permettra aussi d'identifier encore plus en détail s'il y a un biais de surconfiance, notamment si sur les questions où elle ou il s'est senti à l'aise, nous, on voit qu'il y a un écart. Et ensuite, en termes de feedback complet, demander sur quel poste elle a d'autres entretiens ou elle a postulé pour l'aider notamment à mieux les préparer et suite à l'entretien ou à prendre une demi-heure avec elle pour les préparer, pour qu'elle puisse réussir les autres entretiens.
Pour finir, si nos auditeurs devaient retenir qu'un seul de tes conseils, tu voudrais que ce soit lequel ?
Manger les pommes. L'évaluation est une compétence. Et si on veut que le recrutement soit considéré comme un métier et un métier de compétences, il nous faut nous former à l'évaluation et en l'occurrence à l'entretien structuré. S'il fallait retenir une seule chose, vous ne savez pas à quel point en fait l'entretien structuré a eu un avant et un après dans ma vie. Je ne pense pas que j'aurais fait les mêmes erreurs si j'avais eu connaissance de l'entretien structuré. J'en avais une vague idée, mais la connaissance que j'en ai aujourd'hui me rassure davantage. Il me permet de me raccrocher à un système qui est performant plutôt que de m'attendre à ce que je fasse de la magie.
Merci Mohamed d'avoir accepté notre invitation.
Merci pour l'invitation et à très bientôt.
L'ignorance engendre la confiance en soi plus fréquemment que ne le fait la connaissance, écrivait Charles Darwin. Voilà une belle manière de résumer le biais de Denis Kruger ou effet de surconfiance. Les personnes qui affichent une assurance à toute épreuve sont très fréquemment perçues comme compétentes, alors qu'elles ne sont, la plupart du temps, que des ignorants qui s'ignorent. Confondre confiance en soi et compétence s'avère être un raccourci néfaste, aussi bien pour les recruteurs que pour les organisations. Recrutement injustifié, promotions qui n'ont pas lieu d'être, ou bien encore augmentation salariale illégitime. Heureusement, grâce au témoignage de Mohamed et à ses précieux conseils, comme le recours à l'entretien structuré, la préférence accordée aux questions comportementales et situationnelles, ou bien encore les tests de connaissances, nous sommes dorénavant mieux armés pour affronter ce biais et s'en affranchir au maximum. Vous venez d'écouter Histoire de recruteur, le jour où je suis tombée dans le piège d'un candidat très sûr de lui et qui se vendait bien. Sachez que vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Spotify, Deezer, Ocha, Apple Podcasts. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et à en parler autour de vous.